بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Mes chers frères en islam, dans ces deux versets, Allah Azza wa Jal s'adresse aux mu'minin de toutes les époques, toutes les périodes, toutes les régions du monde, la Ummah, jusqu'à la fin des temps, en ce sens. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 10 et 11, « Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. » Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. Al-Fawzul Kabir. Cela est le grand succès. Qu'Allah nous accorde ce grand succès. Allahumma amin. La semaine dernière, mes chers frères, on avait vu le verset Alladhi lahu mulku samawati wal ard, qui stipule que à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. On avait expliqué, on avait tenté d'expliquer la grandeur d'Allah, le pouvoir d'Allah, le mulk d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième verset qu'on avait expliqué, c'est Wallahu ala kulli shay'in shahid, qu'Allah est témoin de toute chose. Tout ce qui se passe dans ce monde, Allah ta'ala est témoin. Allah il sait, parce qu'Allah a déjà prédestiné tout ce qui doit arriver. Ce qui se passe comme bien, comme chose mauvaise, Allah ta'ala il connaît. Et quand nous voyons des injustices, quand nous voyons des choses incohérentes, injustes, qui nous paraît démesurées et qu'on ne voit pas de justice dans ce monde, le musulman doit garder confiance en Allah. Il a cet espoir, il sait, il a le cœur apaisé. Il se dit que si je n'ai pas eu justice dans ce dunya, de toute façon, ce n'est pas peine perdue. Le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal va m'élever. Allah Azza wa Jal va m'accorder ce que je n'ai pas eu de ce monde. Et le jour de la résurrection qu'Allah donne, c'est beaucoup plus que ce qu'un être humain peut avoir dans ce dunya. Quelqu'un a travaillé pour une personne dans un magasin. D'accord ? Le patron lui a dit que je te donne le SMIC. Et à la fin du mois, il dit que écoute, ton travail n'est pas bon, j'ai plus besoin de toi. Il dit, ben, mon SMIC. Elle dit, non, ton travail n'est pas bon. Je sais pas, le SMIC c'est combien ? 1200. Il dit que non, 1200, si tu avais bien travaillé, mais tu n'étais pas bon travailleur. Alors qu'il était à l'heure. Il était à l'heure, il venait 8h jusqu'à midi, 2h, 6h, enfin, comme c'était convenu. Il dit, tu étais ben, un bon ouvrier, un bon maçon, un bon peintre, un bon vendeur, etc. Tu n'as pas fait de chiffre, je ne te donne pas 1200, je te donne 800. Yalla rouh, allez, dégage. Allez, sors de là, je ne veux plus voir de toute façon. Et la personne, yani, c'était à laisser, il n'y a pas de preuve. Bref, la personne a été lésée. Et combien il lui manque ? 9, 10, 11, 12, 400 euros. Il lui manque 400 euros. Il essaie d'envoyer des gens parler avec la personne, lui faire comprendre que je suis musulman comme toi, tralala, etc. La personne, non, il vient à Namaz tout un, mais concernant l'argent, c'est autre chose. L'argent n'est un autre religion, il paraît. C'est un autre din. Ou alors, dans din, dans l'argent, il n'y a pas de religion. Wallah, musta'oud billah, shaitan rajim. La personne, pour être salat, c'est pas vrai ce que je raconte là. Hein. C'est pas une vraie histoire, attention, hein. C'est fictif. Chacun s'en divisé, dit quoi fait là. Non, c'est fictif. Je veux dire que, mais c'est des cas de figure qui existent. Dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui, alhamdulillah, la salat, il n'y a rien à dire. Les salats, l'habillement islamique et tout ce qu'il faut. Mais quand on parle de l'argent, aïe, 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 ça, il ne faut pas toucher l'argent. Viens pas faire bayan, tu l'as tiré, sorte là. Il dit, mette plus bouc là parce que l'islam est un extrémiste, ça. Peut-être demain il sera terroriste. Il ose dire, nous, il ne faut pas emprunter avec la banque. Mais mon magasin, il fait 100 mètres carrés, quand est-ce qu'il va faire 200 mètres carrés? Oh mon frère, 100 mètres carrés, ta famille vit. Tu n'as pas de dette, tu vis bien. Pourquoi tu as besoin de 200 mètres carrés? T'endetter avec la banque, riba, devenir l'ennemi d'Allah. Pourquoi tu as besoin de déclarer la guerre à Allah? comme le stipule les versets du Coran, celui qui utilise l'intérêt, il a déclaré la guerre à Allah. Comme les versets du Coran stipulent, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al celui qui a utilisé l'intérêt, le riba de ce dunya, le jour de la résurrection, il est ressuscité comme un fou, comme quelqu'un qui est possédé par les démons. Allah mahfazna, qu'Allah nous protège, pendant qu'il y aura des musulmans sous l'ombre du trône d'Allah. Hein, on voit ça les mardis à Montreuil, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, qui auront les faveurs, qui seront avec Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum, Allahumma ja'alna minhum. Amin. Pendant qu'il y a des gens qui sont élevés, ils reçoivent le livret de compte direct, dégage direct dans le Jannat, direct dans le paradis, subhanallah. Sans rendre compte, lui, il est comme un fou, comme un malade, comme un possédé avec les gens de son espèce. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de 200 mètres carrés. Son revenu, c'était de 6000 euros par mois. Suffisant, mashallah, combien c'est tout, bien comme il faut. Mais non, on monte son tête et dit que oui, mais il faut être capitaliste. 100 mètres carrés, oui, mais pense à tes enfants. La famille grandit, les enfants, les petits-enfants. Ben, aujourd'hui, 6000 euros, mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, avec la crise, il faut voir plus loin. Emprunte avec la banque, agrandis ton magasin. Il a déclaré la guerre à Allah. Et le jour de la résurrection, pour 100 mètres carrés et pour 5000 euros de plus par mois, il est ressuscité avec humiliation totale devant la création. Allah musta'an. Combien de huffaz al-Qur'an? Combien de personnes qui lisent ces versets de le Tarawih? Combien de personnes qui connaissent la réalité? Mais quand on met des billets mauves devant les yeux, on perd les sens. Nos cinq sens, ils obéissent aux billets mauves. Notre iman, on le met derrière nous. Quand il est question d'argent, Allah musta'an. Pour chaque personne, il y a des fitna. Et le plus grand fitna, c'est al-mal, l'argent. Et l'autre fitna, c'est quoi? C'est hein? Banoun, oui, mais de nos joies, il y a un peu moins. À La Réunion, encore, c'est vrai, les enfants, mais ici, un peu moins. L'autre fitna, c'est quoi? Les femmes. Le plus grand fitna de nos jours, Allah musta'an, c'est les femmes. Allah musta'an. D'accord? Il y a des gens qui ne peuvent pas résister au fitna des femmes. Difficile. Et il y a des gens qui ne peuvent pas résister au fitna de l'argent. Il y a des gens, si on leur parle de l'argent haram, ou elle achète un ticket loto, ou peut gagner. Non, impossible pour lui, non, haram, ça c'est l'argent haram. Mais regardez, premier regard, vous savez, premier regard est pardonné. Mais c'est le regard furtif, clac clac, comme il flash au radar là. Clac clac, un seconde. Quelqu'un n'a pas fait exprès avec une femme, Allah pardonne. Parce qu'Allah, subhanallah, il est pardonneur, clément, miséricordieux. Mais nous, le premier regard, c'est comme si on a mis sur ralenti. Le premier regard est pardonné. Là, on l'a vu tout là. Il est en 4-3-3, 4-3-2, je sais pas, son technique, c'est qui son entraîneur, en haut, en bas, on l'a vu tout là. Mais ça, c'est pas pardonné, ça. Le premier regard, c'est une fraction de seconde, c'est le regard furtif par erreur. Il y a des gens, face au fitna des femmes, ils ont beaucoup de mal à se contenir. D'autres, c'est par rapport à l'argent. Mais en général, la majorité des péchés des gens, ça tourne autour de ces deux grands fitnas. Et je ne sais pas pourquoi on parle de ça, ce n'est pas le sujet, mais dans un contexte, un pays européen, français, et un pays tropical, comme maintenant, où il fait 34 degrés, 35, 36, chaleur tropicale, d'accord, où il y a beaucoup plus de fitnas qu'en métropole ou que dans d'autres pays, celui qui arrive à protéger son regard, subhanallah, c'est quelqu'un qui a iman. Je vous avais raconté cette histoire il y a six ans, il y avait des gens de Makka, près de Makka, qui étaient venus à La Réunion pendant quelques jours. Et la personne voulait rendre visite à un frère égyptien. Il voulait des arabophones. Il n'y a pas beaucoup. Il y a des arabes, mais pas des arabophones. Hein, ça, c'est un problème encore, ça. Ouais. Il est parti voir un frère égyptien pour lui parler un petit peu et tout. Un peu de da'wah, de din, etc. Et c'était un samedi. Et je sais d'où vient cette personne, de quel endroit il vient, d'où il sort. Je ne voulais pas l'amener en ville samedi après-midi. Mais il a dit non, on va voir cette personne. Il a dit bon, khalas. Il a dit ben, il va avoir des surprises. Le premier choc, c'était quoi quand on est passé boulevard Lancastel? Il a vu le cimetière. Des musulmans à gauche, mais cimetière des réels musulmans à droite. Il a vu tous ces salibs, ça. Il était choqué. J'ai vu, il n'y a personne qui parlait. Et là, je me dis, quelqu'un qui habite dans un pays musulman près de Makkah, il voit ça, il se dit que la ilaha illallah, qu'est-ce qui est en train de se passer à droite? Non, passe devant boulevard Lancastel tous les jours. Tous les jours, moi personnellement, et au moins 4-5 fois par jour, alhamdulillah, mais normalement le prophète m'a dit, rendez visite aller au cimetière, ça vous rappelle le delà. Mais nous, on va parfois au cimetière et on voit souvent le cimetière du côté gauche, ceux qui n'ont pas iman, mais ça doit faire quelque chose. On doit se dire, la ilaha illallah, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment sous ces tombes, sous cette terre, quel genre de azab, quel genre de punition, la ilaha illallah, et on doit faire shukar, oh Allah, merci Allah pour le iman. Si Allah ne nous avait pas donné le iman, on serait mort sans la foi. S'il n'y avait pas des sahaba, je parle pour nous de la communauté indienne par exemple, des sahaba qui étaient partis en Inde, à Sindh, il y a wallahi madri combien de siècles, pour faire la da'wah, nous on serait hindous. Et si nos frères comoriens, il n'y avait pas ces sahaba qui étaient partis aux îles Comores quelques siècles après, un siècle au maximum après le décès du Prophète, vous ne seriez pas musulmans. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh Allah, merci, plus grand bienfait c'est iman, qui nous permet, même si on était malheureux, pauvre, smicard, yani défavorisé, quels que soient les problèmes de ce dunya, mais si on est mort avec la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, on sait qu'on est dans le bon train. Peut-être le dernier wagon, on n'est pas en first class, on n'est pas en business, on est au fond, avec debout, mais on est dans le bon train. On a le contentement d'Allah. Parce que celui qui a la ilaha illallah dans le cœur, il ne reste pas à l'enfer. Même s'il doit payer, qu'Allah nous protège pour des erreurs, mais en finalité, mu'min, sa place c'est dans le jannah. Mu'min, sa place c'est dans le jannah. Kafir, sa place c'est dans le jahannam. Il y en a qui n'aiment pas quand on dit ça. Il y en a qui n'aiment pas. Il dit, 10 musulmans, ça donne jannat, mais dis pas ceux qui n'ont pas iman ne vont pas dans le paradis, parce que de nos jours, on est frères. Non, je suis désolé. On aime bien tout le monde, mais Allah Azza wa Jalla dit, innahu man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Celui qui a fait le shirk, celui qui n'avait pas la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans son cœur, même s'il a fait beaucoup de bonnes choses, même si c'était un héros, même si c'était quelqu'un qui a donné tous ses biens pour les pauvres, dans les pays pauvres ou je ne sais quoi, sans la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, personne n'accède au paradis. Et c'est pas moi qui ai décidé, c'est le créateur, celui qui a créé le paradis. Si quelqu'un a un problème, il va voir celui qui a créé le paradis. Parce que ça lui appartient, ça. Et c'est lui qui a décidé qui c'est qui rentre dedans. Il y a des fois qu'on discute avec des jeunes, surtout sur Facebook. Hein, ça, c'est le nouveau forum des mouftis. Il y a beaucoup de mouftis sur Facebook, vous savez. Beaucoup. Il y a des gens qui vous donnent des fatwas. Il y a même, j'entends dire quelque chose. Je ne dis pas parce que, bon, hein, il y a des gens qui écoutent et qui me suivent sur Facebook. Ils savent de qui on parle. Non, Wallah Musta'an. Et ça, c'est un autre fitna encore. Bref. Et donc, il y a des gens, subhanallah, quand on parle de paradis et d'enfer, pour eux, non. Ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un qui est d'une autre confession que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'on dise que cette personne ne peut accéder au paradis. Pour eux, c'est impossible. Pour eux, non. Il y a l'humanisme. Dieu est amour. Dieu ne va pas envoyer des créatures bonnes dans l'enfer. Je suis désolé, mais ce n'est pas nous qui fixons les règles. Ce n'est pas nous qui décidons que non, Allah, il va faire. Non, Allah, il a dit que ça se passe comme ça. Et il y a des fois, après qu'on explique la personne, on dit, écoutez, quelqu'un qui n'a pas fait un sujda pour Allah, de toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, comment Allah le fait accéder au paradis? Allah a décidé que celui qui ne s'est pas prosterné devant lui, qui n'a pas une fois attesté que Allah, tu es mon Dieu unique, et que cet homme-là, la créature la plus aimée par Allah, Muhammad, alayhi salatu wa salam, c'est ton prophète. Celui qui considère Muhammad comme un bédouin, comme un bandit, comme un brigand, ou comme quelqu'un qui n'a peut-être pas existé, ou comme un simple citoyen, vous pensez qu'il va accéder au Jannah? Comprenez qu'il y a une cohérence, subhanallah, c'est Allah a décidé que celui qui a iman, sa place c'est dans le paradis. Même s'il a fait des erreurs, mais peut-être qu'il va souffrir dans ce monde, ou alors dans la tombe, dans l'au-delà. Ou Allah pardonne par rapport à sa condition, ses circonstances, etc. Mais celui qui a la ilaha illallah, ne serait-ce 1% de la ilaha illallah de son cœur, il accède au paradis. Alors ne regardez pas le problème de notre sens, de dire que oui mais c'est pas juste, quand même lui il a fait ça, il y a des musulmans qui sont des escrocs. Ils vont au paradis. Et il y a des personnes qui n'ont pas la ilaha illallah, ils font de bonnes choses, ils vont en enfer. Regardez plutôt que si toi tu as la ilaha illallah, lève-toi demain, remercie Allah. Bye. Remercie Allah qui t'a donné la ilaha illallah et demande Allah ihdina as-sirat al-mustaqim. De nous guider, de nous garder dans le droit chemin et qu'on quitte ce dunya avec la ilaha illallah. Ça, ce serait le plus grand cadeau, mes chers frères. Parce que personne, encore une fois, là aussi il y a des gens qui, quand je dis ça, ils disent oui, mais comment, qui, quoi, quand, comment, dit que
n'y a pas une personne de cette assemblée qui a la garantie qu'il va aller au paradis. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans la vie. Si Allah nous protège, il y a des gens, un hadith qu'on a déjà expliqué, il y a des gens qui, toute leur vie, font de bonnes actions. Mais avant de mourir, Allah décide qu'ils fassent une action des gens de l'enfer et leur destination, c'est l'enfer. Et le contraire, il y a des gens qui, durant toute leur vie, font des mauvaises actions. Mais Allah a décidé de leur donner la lumière, le nour de iman, un moment de leur vie, ou parfois ça peut être un instant avant de mourir. Et cette personne-là va dans le paradis. Ça, c'est Allah qui prend la décision. C'est pour ça que nous, on n'a qu'une chose à faire. Demander, de un, remercier Allah pour le iman, et demander à Allah de nous garder de ce iman, et de quitter ce monde avec le iman. Celui qui a quitté ce monde avec la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, même s'il n'avait pas un compte à la BNP, la BA, à Crédit Agricole, le Gabier, ou je ne sais pas, telle banque, il avait calément dans son cœur, il n'a rien laissé derrière lui comme bien, richesse, c'est l'homme le plus riche. Parce qu'Allah décrit cette personne, comme le dernier verset qu'on a dit, « Dhalikal fawzul kabir », c'est le plus grand succès ça. Celui qui est ressuscité, Allah est content, lui il le fait rentrer au paradis. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Cet homme qui a tout eu de ce monde, hadith qu'on avait expliqué la dernière fois, cet homme qui a eu tous les bienfaits de ce monde, il voit le Jahannam une seconde, ça lui faut oublier tout ce qu'il a connu. Parce que le Jahannam, la ilaha illallah, ça c'est terrible, les anbiya alayhi salatu wassalam, les prophètes au jour de la résurrection tremblent de peur quand on fait présenter devant l'humanité. Certains kutub disent que les anbiya, certains prophètes tombent à genoux, ils demandent à Allah, protégez-nous de l'enfer. Quand ils voient l'enfer qui se débat avec les chaînes et que les anges ne peuvent plus le contenir. L'enfer a faim. L'enfer a besoin des koufars et des mouchriquines. L'enfer a besoin des gens qui ont fait des péchés le jour de la résurrection. Et même les prophètes, quand ils voient ça, ils ont peur. Quelle sera notre situation? Alors celui qui a été ressuscité avec la ilaha, mort avec la ilaha illallah, ressuscité avec le contentement d'Allah, et il accède au paradis, c'est l'homme le plus heureux. Dhalika al-fawzul kabir. Pour revenir au verset qu'on avait commencé aujourd'hui, la ilaha illallah. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas. La majorité des commentateurs du Coran sont d'avis que إن الذين فتنوا, que le verset concerne directement l'histoire de Ashabul Ukhdud. Les personnes qui ont persécuté des gens parce qu'ils avaient la ilaha illallah de leur cœur et ils avaient creusé un fossé, ils brûlaient ces gens vivants parce qu'ils ne voulaient pas quitter le din, ils ne voulaient pas quitter la foi, le iman billahi wa rasuli. Ces gens-là, c'est eux qui sont, yani on parle d'eux de ce verset. Et d'autres savants sont d'avis que c'est général, ceux qui vont subir des épreuves aux croyants et aux croyants, c'est-à-dire toute époque confondue. Mais en synthèse, les moufassirines sont d'avis que le verset concerne les deux catégories de personnes. Particulièrement ceux qui, l'histoire citée juste avant, Ashabul Ukhdud, par rapport à ce qu'ils ont fait, mais d'une manière générale, parce que souvent les versets du Coran sont révélés dans un contexte, mais peuvent englober toutes les personnes qui vont faire les mêmes choses. Donc le verset concerne tous ceux qui ont fait du tort à ceux qui avaient la ilaha illallah de leur cœur, comme Malam Yatoubou, et qui sont morts dans cette situation. C'est-à-dire sans demander tawbah, sans demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le premier sens, inna alladhina fatanul mu'minina al mu'minat, le verbe fatanu, ça veut dire ceux qui ont brûlé vifs et qui ont assassiné ces musulmans, ces gens qui avaient la foi, donc à cette époque, et qui ne sont pas repentis, n'ont pas demandé pardon à Allah, falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Hein, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Alors imaginez, à notre époque, quand nous voyons ce qui se passe dans certains pays, dans certaines régions du monde où des musulmans sont massacrés, comme on a déjà expliqué, on se pose des questions. Mais comprenons qu'à l'époque des Sahaba, il y a eu ce genre de problème. Avant les Sahaba, avec les autres Anbiya qui amenaient l'unicité d'Allah, il y avait toujours des personnes qui étaient persécutées pour garder la foi. Et regardez cet exemple précis, Allah Azza wa Jal annonce la couleur de leur châtiment, que si eux, si ces gens-là, ils n'ont pas fait Tawbah, ils auront le Jahannam et ils auront le supplice du feu. Alors, qu'on comprenne bien, les commentateurs du Coran, ils disent qu'on comprenne bien qu'il y a des fois où Allah Azza wa Jal peut laisser une injustice perdurer dans ce monde. Et que nous voyons, notre lecture des événements, c'est quoi? C'est que c'est pas normal. Si quelqu'un n'a pas une foi solide et il ne sait pas que quelle est la sagesse d'Allah derrière ce genre de difficultés, peut se dire que ben, pourquoi est-ce qu'Allah ne vient pas en aide à ces gens. Mais là, le verset annonce directement quel sera le sort de ces zalims, de ces oppresseurs, que ces gens-là, c'est le jahannam et le supplice du feu. Donc ça nous fait comprendre que Allah peut laisser une injustice perdurer, mais que si Allah ne les a pas punis dans ce dunya et n'a pas rétabli la justice dans ce dunya, de toute façon, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala va punir ces gens-là d'un châtiment exemplaire. Dans ce monde, ils ont brûlé des mu'mines avec le feu de ce monde. Mais qu'est-ce qu'Allah a promis à ces gens? Allah a promis à ces gens le feu du Jahannam, le feu de l'enfer. Et tout le monde sait quelle est la... Yani, on ne compare pas le feu de l'enfer au feu de ce dunya. Tout comme rien de ce monde n'est comparable à leur équivalent en nom, sur la terminologie de l'au-delà, pareil, le feu de l'enfer, le feu de ce dunya, c'est incomparable. Dans les hadiths, le prophète sallam décrit le feu de l'enfer en disant que ce feu a été préparé, attissé pendant 1000 années. Al-fa'amin hatta biyaddat. Yani, le feu de l'enfer, après 1000 années, est devenu blanc. Un feu de couleur blanc. Là, on voit déjà que ce n'est pas le feu de ce dunya. Rien à voir. Wa al-fa'amin hatta ahmarrat. Et 1000 années ensuite, le feu de l'enfer est devenu rouge. Wa alfa amin hatta swaddat. Et au bout de 3000 ans où ce feu a été préparé, attissé, on a fait tout pour qu'il atteigne le maximum de chaleur, le feu de l'enfer est devenu noir. Et le prophète me dit que maintenant le feu du Jahannam, il est noir et obscur. Ça, c'est le feu du Jahannam. Ceux qui ont brûlé les mu'mines avec le feu de ce monde, Allah leur a promis ce feu-là qui est incomparable avec le châtiment qu'eux, ils ont fait subir à des gens. Donc voyez quelle est la sagesse d'Allah. Si Allah ne les punit pas, Allah fait en sorte que ces gens-là, Allah ne les détruit pas maintenant, mais Allah va les réserver quelque chose d'exceptionnel là-haut. Et comprenons tout ce qui se passe dans l'actualité lorsqu'on voit les injustices dans différents pays du monde. Et souvent les injustices, ça reste sous silence. Les gens ne le dénoncent pas. Même les défenseurs des droits de l'homme et tout, ils ne le dénoncent pas. Quand il s'agit de mu'mines, de musulmans qui sont assassinés, meurtris, torturés, yani, ça fait moins de bruit. Il y a moins d'écho dans la presse que quand c'est d'autres personnes. Mais sachez, mes chers frères et mes chères sœurs, ceux qui vont écouter, que Allah Azza wa Jal a une sagesse extraordinaire dans ces événements. Allah va punir ces gens. Un supplice extraordinaire, exceptionnel, exemplaire au jour de la résurrection, comme le verset l'annonce. Et Allah va élever les opprimés. Si Allah avait rétabli la justice de ce monde, ils auraient eu leur honneur et c'était fini. Mais là, il y aurait eu leur récompense aussi, bien sûr, de l'au-delà. Mais là, Allah Ta'ala garde l'intégralité de leur récompense pour l'au-delà. Et vous savez, quand le prophète a dit le hadith, que celui qui meurt shahid dans le chemin d'Allah, pour la cause d'Allah, avant que son sang ne touche le sol, qu'est-ce qui se passe? Ses péchés, tous ses péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui retourne auprès d'Allah sans péché. Il n'y a plus de péché avant qu'il meure, son ruh quitte, ou alors son sang ne touche le sol, cet homme-là, ou cette femme-là, il a tous ses péchés pardonnés, ça c'est promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah élève cette personne quand il arrivera là-haut, quelqu'un qui n'a pas de péché. Il a des comptes à rendre? Quelqu'un qui n'a pas de péché, est-ce qu'il a des soucis? Est-ce que je vais avoir mon livret de compte dans la main droite ou la main gauche? Il n'y a pas de péché dans ce livret de compte, subhanallah. Est-ce qu'on a besoin de peser ses actions? Il n'a pas de péché. Avant de mourir dans le chemin d'Allah, tous ses péchés ont été effacés. Et cette personne-là qui a été opprimée au jour de la résurrection, si on lui donnait le choix, bon, est-ce que tu es d'accord de retourner dans ce monde? On revient en arrière, on rétablit la justice, tu redeviens normal, tu as une vie normale et que les oppresseurs sont punis, emprisonnés, même il y a une chaise électrique ou peine de mort ou pendu, d'accord? Et toi, tu as l'honneur de ce monde, mais le jour de la résurrection, tu es comme tout le monde. Tu as des péchés, des bonnes actions ou des brûles de carie, on va voir qu'est-ce qu'il y a plus de bonnes péchés. Jamais la personne ne serait d'accord de revenir pour lui, même s'il a eu des souffrances, il a connu des années de torture, mais quand il voit ce qu'Allah est en train de lui accorder, le rang qui lui est accordé, jamais cette personne ne serait d'accord de revenir de ce monde. Il comprend maintenant quelle était la sagesse d'Allah. 23 minutes, encore 7 minutes, Inch'Allah. On s'arrêtera à 30 minutes, Inch'Allah. Hada. Et donc, ça c'est la sagesse d'Allah. Falahum adabu jahannam, walahum adabu al-hariq. Hada. Et quand on parle des châtiments de l'au-delà, hein, pour revenir à une petite parenthèse sur les châtiments de l'au-delà, pour voir que quand on voit les injustices, comprenons que, vous savez, le châtiment le plus tendre, le plus doux, et je pèse mes mots, le châtiment le plus doux de l'au-delà, c'est quoi? C'est ce que l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'avait pas eu iman en Allah, par décision d'Allah, dans la sagesse d'Allah, Allah a décidé que celui, cette personne, il a protégé le prophète, mais il n'a pas lu la ilaha illallah. Jusqu'à la fin, le prophète a dit: oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Mais non, il avait la pression des Quraysh, il avait la pression des chefs de tribu, il ne l'a pas fait. Et pour lui, son châtiment de l'au-delà. Et puis, quand on voyait des gens qui disent que oui, mais quelqu'un qui a fait de bonnes choses, même s'il n'a pas la foi, on ne peut pas dire qu'il ira en enfer. Mon frère, l'oncle du prophète, celui qui a défendu physiquement et avec toute sa force, avec toute son emprise, il a mis en jeu sa réputation par rapport au chef de tribu des Quraysh, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lui ne peut accéder au paradis parce qu'il n'avait pas la ilaha illallah dans son cœur. Et cet homme-là, le jour de la résurrection, le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala, dans le hadith, il a décrit quel sera son châtiment. Allah Ta'ala ordonnera aux anges, aux gardiens de l'enfer, de lui mettre des chaussures qui seront faites avec du feu de l'enfer. Et la chaleur de ses chaussures, on appelle ça chaussure, mais la chaleur sera telle que son cerveau va bouillir. Il y aura l'ébullition au niveau de son cerveau par rapport à la chaleur au niveau de ses pieds. Et il va croire qu'il a le plus grand châtiment de l'enfer, alors que ça, c'est rien. C'est le plus doux des châtiments de l'enfer. Alors qu'on se réjouisse, qu'on soit apaisé. On voit les injustices. Il n'y a pas besoin de dire le nom des pays parce qu'on ne fait pas de politique dans la madjid. Nous savons tous où il y a une injustice énorme depuis des années et des années. On voit parfois c'est des femmes, parfois c'est des enfants. C'est des choses inouïes et atroces qui se passent tous les jours. Sous le silence de tous les autres pays, défense des droits de l'homme, des citoyens, de la femme, veuve, l'orphelin, shérif de tous les continents. Quand il y a un problème dans n'importe quel continent, ils sont là. Mais là, des milliers de gens meurent et là, ils ne disent rien. Qu'on comprenne que ces opprimés, ils seront les plus heureux le jour de la résurrection. Et que ces oppresseurs, ils seront les personnes les plus avilies, les plus déshonorées, les plus châtiées. Promesse, adab ou jahannam et adab ou hariq dans l'au-delà. Je pense qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Parce qu'après, il y a un autre point, mais c'est un peu long. Il y a un point. On aborde juste pour qu'on comprenne de quoi on va parler la dernière fois. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati. Et il y a une phrase qui interpelle ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se répandent pas. Comment ça? Ça veut dire quoi? Les ulama disent que regardez, malgré l'atrocité de ce qu'ils ont fait, brûler des hommes, des femmes et des enfants vifs, parce qu'ils ont la ilaha illallah de leur cœur, malgré ça, Allah Ta'ala laisse une porte ouverte à quoi? Au taouba, au repentir, puis ne se répand pas. Ça veut dire que si, malgré l'atrocité de leurs actes, à la fin de leur vie, ils ont demandé pardon à Allah, ils ont lu la ilaha illallah, Allah les pardonne. Ça montre comment notre Rabb, comment notre Seigneur, il est grand et comment il est pardonneur et miséricordieux. Quand on parle un peu avec les chrétiens, ils disent que oui, mais chez vous, les musulmans, c'est trop dur, tandis que chez nous, Dieu est amour. Je suis d'accord, Dieu est amour. Nous aussi on dit Allah le Rahman, plus que amour, clément, miséricordieux. Le terme Rahman et Rahim n'ont pas leur équivalent en langue française. Parce que quand on dit que dans Rahman et Rahim, il y a la clémence d'Allah, même pour celui qui adore un arbre toute sa vie. Et qui dit que Allah n'existe pas et qui tue le musulman, Allah il a Raham pour lui également de ce dunya. Si ça, ce n'est pas de l'amour. Allah a de la pitié, de la compassion pour chacune de ses créatures, même cette créature qui lui désobéit depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Allah a de la compassion pour lui. Allah le protège, lui donne sa subsistance, son rizq. Allah le protège. Et l'autre, Rahman et Rahim, le joie de la résurrection, la clémence d'Allah pour ceux qui ont iman de leur cœur. C'est-à-dire, Allah il a de l'amour pour toute la création. Allah il est wadoud. On a cette notion de Dieu est amour dans l'islam aussi. Mais regardez à travers cette histoire de Tawbah, même quelqu'un qui a fait des choses comme ça, Allah est capable de pardonner. Ça c'est plus que Dieu est amour. Allah il est pardonneur. Allah il est clément. Allah Ta'ala il est miséricordieux. Regardez quand, subhanallah, l'histoire de cet homme qui avait tué 99 personnes. On connaît ça. Il a dit, est-ce que je peux avoir, Allah va me pardonner? Quelqu'un lui a dit, quoi 99? Mais t'es un malade toi. Mais tu es mal, il n'a pas dit comme ça. Il a dit 99, jamais Allah va te pardonner. Il a dit, ah bon, il a tué cette personne. Il a fait 100. D'accord? Combien de points c'est fait et plus il gagne, plus je sais pas. Bref, 100 personnes. Et puis là, il dit que il est parti voir un savant. Le savant lui a dit que oui, Allah va te pardonner si tu es sincère. Quitte cet endroit, va là-bas, il y a des gens purs, reste avec eux, demande tawbah. L'histoire est longue et tout le monde connaît l'histoire. En finalité, il a eu le pardon d'Allah Azza wa Jal. Un serial killer, un psychopathe, quelqu'un qui a tué 100 individus, 100 personnes. Allah accorde son pardon. Alors que dans le hadith, le prophète explique que une des pires choses, c'est que quand quelqu'un fait couler le sang de manière injuste. Et le jour de la résurrection, quelqu'un qui a tué une personne, le jour de la résurrection, la personne qui a été tuée viendra avec ses blessures devant le tribunal d'Allah, il amènera la personne, dit « Oh Allah, salhu fi ma qatalani, oh kama qala al-sasam. Oh Allah, demande à cette personne pourquoi il m'a tué. » Là, ça, il n'y a pas de pardon là-haut, là. Pour le meurtre et tout, ça c'est la pire des choses, d'accord? Mais quelqu'un qui l'a fait et qui a demandé tawbah, il a compris, il a demandé pardon, Allah l'a pardonné. Regardez Abu Sufyan, excusez-moi. Après combien d'années de adawa, combien de temps il était ennemi du prophète sallam, à un moment donné, Allah lui a donné la hidayah, l'a guidé. Avant la conquête de Makkah, il est devenu mu'min billah. Regardez Wahshi, celui qui a tué Hamza, celui qui a ouvert le vent de Hamza. Hind, celle qui a ordonné à ce qu'on tue l'oncle du prophète sallam et qui a essayé de manger son foie et qui a découpé les oreilles, qui a mutilé le corps de l'oncle du prophète sallam. Et le prophète sallam était très attristé de voir cela. Le prophète était, son cœur était déchiré et on appelle ça l'année de la tristesse. Allah leur a accordé la guidée à un moment de leur vie, ils sont revenus vers le prophète, ils ont demandé tawbah à Allah et Allah a accepté le tawbah. Malgré qu'ils ont fait souffrir, ils ont fait souffrir le prophète personnellement. Mais Allah Ta'ala est tellement pardonneur. Allah est Wadud, Rahman et Rahim. Et ça remplit nos cœurs d'espoir. Il y a des gens parfois ils se disent, moi je connais des gens, nous ferme le livre, au moins les gens les plus inquiets, on a terminé. Je connais des gens qui ne veulent plus venir à la masjid, qui n'osent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait trop de bêtises. Il dit que non, j'ai dépassé les bornes. J'ai dépassé les limites, je ne peux plus revenir à la masjid. Ça c'est shaitan. Shaitan déjà, il a fait tomber la personne, dès des péchés. Ça c'est un fait. Mais en plus, shaitan, il fait comprendre que les portes sont fermées pour toi. Il n'y a plus de tawbah possible pour toi. Ça c'est la pire des choses. Alors qu'Allah dit au Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas le shirk, comme on a vu tout à l'heure. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa. Et mis à part le shirk, Allah Ta'ala peut tout pardonner. Ça, c'est de l'espoir. Ça fait comprendre que, quelles que soient les erreurs qu'on a pu faire, des hadiths, on dit qu'un musulman qui revient vers Allah sincèrement, même s'il y a plus de péchés que de graines de sable dans le désert ou de gouttes de pluie ou que l'écume des mers, si quelqu'un revient vers Allah avec sincérité, Allah le pardonne tout, mais tout Allah est capable de pardonner. Ça remplit nos cœurs d'espoir. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir quelque chose qui est connu, mais c'est un rappel pour moi et pour tout le monde. Pour tout le monde. Quelles sont les conditions pour qu'Allah pardonne l'intégralité des péchés d'une personne, même les gunas kabira. Vous savez que quand on fait wuzu, etc., les péchés sont pardonnés. Mais la majorité des savants, les savants sont d'avis que ces péchés-là, c'est les petits péchés. La Jum'a, l'autre, etc., ou quand on fait le wuzu, on fait ça, c'est les petits péchés. Maintenant, les péchés graves, le zina, quelqu'un qui a bu de l'alcool, ou des trucs comme ça, il y a besoin de certaines conditions. On va voir quelles sont ces conditions pour ressortir clean, pour qu'Allah pardonne tout ce qu'on a. Allah nous accepte d'interfier, de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager à nos meilleurs. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Vous savez, on est dans le mois de Rabi'ul Awwal. D'accord? Et c'est un mois, certes, un mois important. Mais ce qui est important qu'on comprenne, c'est que malheureusement, beaucoup de gens se focalisent sur ce mois. Et dans ce mois, ils manifestent leur attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le musulman, il suit la sunna toute sa vie. Le musulman, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie. Et les sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, les tabi'in, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Khari, Tirmidhi, Nasa'i. On vous citerai tous les ulama, les grands piliers de l'histoire de l'islam. Ces gens-là n'ont jamais festoyé durant le mois de Rabi'ul Awwal. Maintenant, si moi, en 2011, j'estime que j'ai plus de science que ces gens-là, et je veux festoyer le 12 Rabi'ul Awwal, faire de grandes choses pour montrer que j'aime le prophète, Il faut comprendre que si je me définis comme étant Hanafi, Shafi'i, Maliki, ou que moi j'aime Bukhari Sharif, j'aime lire le Coran, j'aime le tafsir, etc., sachant que les gens que nous admirons, sachant que les Abu Bakr al-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Omar, etc., personne n'a célébré le 12 Rabiul Awwal. Qu'on comprenne bien que cet amour-là, il doit être présent toute la vie. Sinon, on tombe comme dans les trucs de fête des mères et fête des pères pour les non-musulmans. Pour le fête des mères, d'un cas de moment, il aime le moment, il embrasse son pied. Mais le lendemain, dégage. L'hospice est là-bas, oublie pas de place là-bas. Ça ne sert strictement à rien. Notre amour pour l'islam, il doit se manifester dans la vie de tous les jours par ittiba' sunnah, le fait de rester ferme de la sunnah. Et mes chers frères, qu'on fasse bien attention, qu'on ne fasse rien de notre vie qui nous éloigne de la sunnah, qu'on ne mette pas un pied dans les innovations. Jazakallah khair.